Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Georges Perec, Les choses. Les uns et les autres, ils étaient aisément identifiables. Ils avaient de l'argent, pas trop, mais suffisamment pour n'avoir qu'épisodiquement, à la suite de quelques folies dont ils n'auraient su dire si elles faisaient partie du superflu ou du nécessaire, des finances vraiment déficitaires. Leurs appartements, studios, greniers, deux pièces de maison vétustes dans des quartiers choisis, le Palais Royal, la Contrescarpe, Saint-Germain, le Luxembourg, Montparnasse, se ressemblaient. On y retrouvait les mêmes canapés crasseux, les mêmes tables dites rustiques, les mêmes amoncellements de livres et de disques, les mêmes vieux pots, vieilles bouteilles, vieux verres, vieux bocaux, indifféremment remplis de fleurs, de crayons, de menus monnaies, de cigarettes, de bonbons, de trombones. Ils étaient vêtus, en gros, de la même façon, c'est-à-dire avec ce goût adéquat qui, tant pour les hommes que pour les femmes, fait tout le prix de Madame Express, et par contre-coup de son époux. D'ailleurs, il devait beaucoup à ce couple modèle. L'Express était sans doute l'hebdomadaire dont il faisait le plus grand cas. Il ne l'aimait guère, à vrai dire, mais il l'achetait, ou en tout cas l'empruntait chez l'un ou chez l'autre, le lisait régulièrement et même, il l'avouait, ils en conservaient fréquemment de vieux numéros. Il leur arrivait plus que souvent de n'être pas d'accord avec sa ligne politique. Un jour de saine colère, ils avaient écrit un court pamphlet sur le style du lieutenant. Et ils préféraient de loin les analyses du Monde, auxquelles ils étaient unanimement fidèles, ou même les prises de position de Libération, qu'ils avaient tendance à trouver sympathiques, mais l'Express et lui seul correspondaient à leur art de vivre. Ils retrouvaient en lui, chaque semaine, même s'ils pouvaient à bon droit les juger travestis et dénaturés, les préoccupations les plus courantes de leur vie de tous les jours. Il n'était pas rare qu'ils s'en scandalisent. Car vraiment, en face de ce style où régnait la fausse distance, les sous-entendus, les mépris cachés, les envies mal digérées, les faux enthousiasmes, les appels du pied, les clins d'œil, en face de cette foire publicitaire qui était tout l'Express, sa fin et non son moyen, son aspect le plus nécessaire, en face de ces petits détails qui changent tout, de ces petits quelque chose de pas cher et de vraiment amusant, en face de ces hommes d'affaires qui comprenaient les vrais problèmes, de ces techniciens qui savaient de quoi ils parlaient et qui le faisaient bien sentir, de ces penseurs audacieux qui, la pipe à la bouche, mettaient enfin au monde le XXe siècle. En face, en un mot, de cette assemblée de responsables réunis chaque semaine en forum ou en table ronde, dont le sourire béat donnait à penser qu'ils tenaient encore dans leur main droite les clés d'or des lavabos directoriaux. Ils songeaient, immanquablement, répétant le pas très bon jeu de mots qui ouvrait leur pamphlet, qu'ils n'étaient pas certains que l'Express fût un journal de gauche, mais qu'il était sans aucun doute possible un journal sinistre. C'était d'ailleurs faux, ils le savaient très bien, mais cela les réconfortait. Ils ne s'en cachaient pas. Ils étaient des gens pour l'Express. Ils avaient besoin sans doute que leur liberté, leur intelligence, leur gaieté, leur jeunesse soient en tout temps, en tout lieu, convenablement signifiés. Il le laissait les prendre en charge parce que c'était le plus facile, parce que le mépris même qu'ils éprouvaient pour lui les justifiait. Et la violence de leur réaction n'avait d'égal que leur suggestion. Ils feuilletaient le journal en maugréant. Ils le froissaient. Ils le rejetaient loin d'eux. Ils n'en finissaient plus parfois de s'extasier sur son ignominie. Mais ils le lisaient. C'était un fait. Ils s'en imprégnaient. Où auraient-ils pu trouver plus exact reflet de leur goût, de leur désir ? N'était-il pas jeune ? N'était-il pas riche, modérément ? L'Express leur offrait tous les signes du confort, les gros peignoirs de bain, les démystifications brillantes, les plages à la mode, la cuisine exotique, les trucs utiles, les analyses intelligentes, le secret des dieux, les petites roues pas chères, les différents sons de cloche, les idées neuves, les petites robes, les plats surgelés, les détails élégants, les scandales bon ton, les conseils de dernière minute. Il rêvait à mi-voix de divan Chesterfield. L'Express y rêvait avec eux. Ils passaient une grande partie de leurs vacances à courir les ventes de campagne. Ils y acquéraient à bon compte des étains, des chaises paillées, des verres qui invitaient à boire, des couteaux à manches de corne, des écuelles patinées dont ils faisaient des cendriers précieux. De toutes ces choses, ils en étaient sûrs, l'Express avait parlé ou allait parler. Au niveau des réalisations, toutefois, il s'écartait assez sensiblement des modes d'achat de l'Express. Il n'était pas encore tout à fait installé. Et bien qu'on leur reconnût assez volontiers la qualité de cadre, il n'avait ni les garanties, ni les mois doubles, ni les primes des personnels réguliers attachés par contrat. L'Express conseillait donc, sous couleur de petites boutiques pas chères et sympathiques, le patron est un copain, il vous offre un verre et un club sandwich pendant que vous faites votre choix. Des officines où le goût du jour exigeait, pour être convenablement perçu, une amélioration radicale de l'installation précédente. Les murs blanchis à la chaux étaient indispensables. La moquette tête de nègre était nécessaire et seul un dallage hétérogène en mosaïque vieillotte pouvait prétendre la remplacer. Les poutres apparentes étaient de rigueur. Et le petit escalier intérieur, la vraie cheminée avec son feu, les meubles campagnards ou mieux encore provençaux, fortement recommandés. Ces transformations qui se multipliaient à travers Paris, affectant indifféremment libraires, galeries de tableaux, merceries, magasins de frivolités et d'ameublement, épiceries même, il n'était pas rare de voir un ancien petit détaillant crève la faim devenir maître fromager avec un tablier bleu qui faisait très connaisseur et une boutique de poutres et de paille. Ces transformations donc entraînaient plus ou moins légitimement une hausse des prix telle que l'acquisition d'une robe de laine sauvage imprimée à la main, d'un twin set de cachemire tissé par une vieille paysanne aveugle des îles Orcades, ou d'une somptueuse veste mi-jersey, mi-peau, pour le week-end, pour la chasse, pour la voiture, s'y révélait constamment impossible. Et de même qu'il lorgnait les antiquaires, mais ne comptait pour se meubler que sur les ventes campagnardes ou sur les salles les moins fréquentées de l'hôtel Drouot, où ils allaient d'ailleurs moins souvent qu'ils ne l'auraient voulu, de même, tous autant qu'ils étaient, n'enrichissaient-ils leur garde-robe qu'en fréquentant assidûment le marché aux puces, ou deux fois l'an, certaines ventes de charité organisées par de vieilles Anglaises au profit des œuvres de la Saint George English Church et où abondaient des rebuts, tout à fait acceptables, cela va sans dire, de diplomates. Ils en éprouvaient souvent quelques gênes. Il leur fallait se frayer un chemin au milieu d'une foule épaisse et farfouillée dans un tas d'horreurs. Les Anglais n'ont pas toujours le goût qu'on leur reconnaît. Avant d'y dénicher une cravate superbe, mais sans doute trop frivole pour un secrétaire d'ambassade, ou une chemise qui avait été parfaite, ou une jupe qu'il faudrait raccourcir. Mais bien sûr, c'était cela ou rien du tout. La disproportion, partout décelable, entre la qualité de leur goût vestimentaire, rien n'était trop beau pour eux, et la quantité d'argent dont ils disposaient en temps ordinaire était un signe évident, mais en fin de compte secondaire, de leur situation concrète. Ils n'étaient pas les seuls. Plutôt que d'acheter en solde comme cela se pratiquait partout, trois fois par an, ils préféraient les secondes mains. Dans le monde qui était le leur, il était presque de règle de désirer toujours plus qu'on ne pouvait acquérir. Ce n'était pas eux qui l'avaient décrété. C'était une loi de la civilisation, une donnée de fait dont la publicité en général, les magazines, l'art des étalages, le spectacle de la rue et même, sous un certain aspect, l'ensemble des productions communément appelées culturelles, étaient les expressions les plus conformes. Ils avaient tort, dès lors, de se sentir à certains instants atteints dans leur dignité. Ces petites mortifications, demander d'un ton peu assuré le prix de quelque chose, hésiter, tenter de marchander, lorgner les devantures sans oser entrer, avoir envie, avoir l'air mesquin, faisaient elles aussi marcher le commerce. Ils étaient fiers d'avoir payé quelque chose moins cher, de l'avoir eu pour rien, pour presque rien. Ils étaient plus fiers encore, mais l'on paie toujours un peu trop cher le plaisir de payer trop cher, d'avoir payé très cher, le plus cher, d'un seul coup, sans discuter, presque avec ivresse, ce qui était, ce qui ne pouvait être que le plus beau, le seul beau, le parfait. Ces hontes et ces orgueils avaient la même fonction, portaient en eux les mêmes déceptions, les mêmes hargnes. Et ils comprenaient parce que partout, tout autour d'eux, tout le leur faisait comprendre parce qu'on le leur enfonçait dans la tête à longueur de journée, à coups de slogans, d'affiches, de néons, de vitrines illuminées, qu'ils étaient encore, toujours, un petit peu plus bas dans l'échelle, toujours un petit peu trop bas. Encore avaient-ils cette chance de n'être pas, loin de là, les plus mal lotis. Ils étaient des hommes nouveaux. Des jeunes cadres n'ayant pas encore percé toutes leurs dents, des technocrates à mi-chemin de la réussite. Ils venaient presque tous de la petite bourgeoisie, et ces valeurs, pensaient-ils, ne leur suffisaient plus. Ils lorgnaient avec envie, avec désespoir, vers le confort évident, le luxe, la perfection des grands bourgeois. Ils n'avaient pas de passé, pas de tradition. Ils n'attendaient pas d'héritage. Parmi tous les amis de Jérôme et de Sylvie, un seul venait d'une famille riche et solide, des négociants drapiers du Nord, une fortune cossue et compacte, des immeubles à Lille, des titres, une gentilhommière aux environs de Beauvais, de l'orfèvrerie, des bijoux, des pièces entières, de meubles centenaires. Pour tous les autres, l'enfance avait eu pour cadre des salles à manger et des chambres à coucher façon Chippendale ou façon rustique normand, telles qu'on commençait à les concevoir à l'aube des années 30. Des lits de milieu recouverts de taffetas ponceau, des armoires à trois portes agrémentées de glace et de dorure, des tables effroyablement carrées, aux pieds tournés, des porte-manteaux en faux bois de serre. Là, le soir, sous la lampe familiale, ils avaient fait leur devoir. Ils avaient descendu les ordures. Ils étaient allés au lait. Ils étaient sortis en claquant la porte. Leurs souvenirs d'enfance se ressemblaient, comme étaient presque identiques les chemins qu'ils avaient suivis, leur lente émergence hors du milieu familial, les perspectives qu'ils semblaient s'être choisies.
Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit tu m'apparais immense, je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances la nuit. Je deviens fou, je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir, et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace, ton rire revient tout effacé. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Le jour dissipe ton image, pas je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les choses de Georges Perec, suite. Ils étaient donc de leur temps. Ils étaient bien dans leur peau. Ils n'étaient pas, disaient-ils, tout à fait dupes. Ils savaient garder leur distance, ils étaient décontractés, ou du moins tentaient de l'être. Ils avaient de l'humour. Ils étaient loin d'être bêtes. Une analyse poussée aurait décelé aisément dans le groupe qu'ils formaient des courants divergents, des antagonismes sourds. Un sociomètre tatillon et sourcilleux eût au fait de découvrir des clivages, des exclusions réciproques, des inimitiés latentes. Il arrivait parfois que l'un ou l'autre d'entre eux, à la suite d'incidents plus ou moins fortuits, de provocations larvées, de mésententes à demi-mot, sema la discorde au sein du groupe. Alors, leur belle amitié s'écroulait. Ils découvraient avec une stupeur feinte qu'un tel, qu'ils croyaient généreux, était la mesquinerie même, que tel autre n'était qu'un égoïste sec. Des tiraillements survenaient, des ruptures se consommaient. Ils prenaient parfois un malin plaisir à se monter les uns contre les autres. Ou bien c'étaient des bouderies trop longues, des périodes de distance marquées, de froideur. Ils s'évitaient et se justifiaient sans cesse de s'éviter, jusqu'à ce que sonna l'heure des pardons, des oublis, des réconciliations chaleureuses. Car en fin de compte, ils ne pouvaient se passer les uns des autres. Ces jeux les occupaient fort et ils y passaient un temps précieux qu'ils auraient pu, sans mal, utiliser à toute autre chose. Mais ils étaient ainsi faits que, quelque humeur qu'ils en eussent parfois, le groupe qu'ils formaient les définissait presque entièrement. Ils n'avaient pas hors de lui de vie réelle. Ils avaient pourtant la sagesse de ne pas se voir trop souvent, de ne pas toujours travailler ensemble, et même, ils faisaient l'effort de conserver des activités individuelles, des zones privées, où ils pouvaient s'échapper, où il pouvait oublier un peu, non pas le groupe lui-même, la mafia, l'équipe, mais bien sûr le travail qui le sous-tendait. Leur vie presque commune rendait plus facile les études, les départs en province, les nuits d'analyse ou de rédaction des rapports. Mais elle les y condamnait aussi. C'était, on peut le dire, leur drame secret, leur faiblesse commune. C'était ce dont ils ne parlaient jamais. Leur plus grand plaisir était d'oublier ensemble, c'est-à-dire de se distraire. Ils adoraient boire, d'abord, et ils buvaient beaucoup, souvent ensemble. Ils fréquentaient le Harry's New York Bar, rue Daunou, les cafés du Palais Royal, le Balzar, l'Ip et quelques autres. Ils aimaient la bière de Munich, la Guinness, le gin, les punchs bouillants ou glacés, les alcools de fruits. Ils consacraient parfois des soirées entières à boire. Resserrés autour de deux tables rapprochées pour la circonstance, et ils parlaient interminablement de la vie qu'ils auraient aimé mener, des livres qu'ils écriraient un jour, des travaux qu'ils aimeraient entreprendre, des films qu'ils avaient vus ou qu'ils allaient voir, de l'avenir de l'humanité, de la situation politique, de leurs vacances prochaines, de leurs vacances passées, d'une sortie à la campagne, d'un petit voyage à Bruges, à Anvers ou à Bâle, et parfois, se plongeant de plus en plus dans ses rêves collectifs, sans chercher à s'en éveiller, mais les relançant sans cesse avec une complicité tacite, il finissait par perdre tout contact avec la réalité. Alors, de temps en temps, une main simplement émergeait du groupe. Le garçon arrivait, emportait les grès vides et en rapportait d'autres. Et bientôt, la conversation, s'épaississant de plus en plus, ne roulait plus que sur ce qu'ils venaient de boire, sur leur ivresse, sur leur soif, sur leur bonheur. Ils étaient épris de liberté. Il leur semblait que le monde entier était à leur mesure. Ils vivaient au rythme exact de leur soif, et leur exubérance était inextinguible. Leur enthousiasme ne connaissait plus de bornes. Ils auraient pu marcher, courir, danser, chanter toute la nuit. Le lendemain, ils ne se voyaient pas. Les couples restaient enfermés chez eux, à la diète, écœurés, abusant de café noir et de cachets effervescents. Ils ne sortaient que la nuit tombée, allaient manger dans un snack-bar cher, un steak nature. Ils prenaient des décisions draconiennes, ils ne fumeraient plus, ne boiraient plus, ne gaspilleraient plus leur argent. Ils se sentaient vides et bêtes, et dans le souvenir qu'ils gardaient de leur mémorable beuverie, s'insérait toujours une certaine nostalgie, un énervement incertain, un sentiment ambigu, comme si le mouvement même qui les avait portés à boire n'avait fait qu'aviver une incompréhension plus fondamentale, une irritation plus insistante, une contradiction plus fermée dont ils ne pouvaient se distraire. Ou bien, chez l'un ou l'autre, ils organisaient des dîners presque monstrueux, de véritables fêtes. Ils n'avaient la plupart du temps que des cuisines exiguës, parfois impraticables, et des vaisselles dépareillées dans lesquelles se perdaient quelques pièces un peu nobles. Sur la table, des verres taillés d'une finesse extrême voisinaient avec des verres à moutarde, des couteaux de cuisine avec des petites cuillères d'argent armoiriées. Ils revenaient de la rue Mouffetard tous ensemble, les bras chargés de victuailles avec des cajots entiers de melons et de pêches, des paniers remplis de fromage, des gigots, des volailles, des bourriches d'huîtres en saison, des terrines, des œufs de poisson, des bouteilles enfin par casier entier de vin de Porto, d'eau minérale, de Coca-Cola. Ils étaient 9 ou 10. Ils emplissaient l'appartement étroit qu'éclairait une seule fenêtre donnant sur la cour. Un canapé recouvert de velours râpeux occupait au fond l'intérieur d'une alcôve. 3 personnes y prenaient place, devant la table servie. Les autres s'installaient sur des chaises dépareillées, sur des tabourets. Ils mangeaient et buvaient pendant des heures entières. L'exubérance et l'abondance de ces repas étaient curieuses. À vrai dire, d'un strict point de vue culinaire, il mangeait de façon médiocre. Rôtis et volailles ne s'accompagnaient d'aucune sauce. Les légumes étaient presque invariablement des pommes de terre sautées ou cuites à l'eau, ou même, en fin de mois, comme plat de résistance, des pâtes ou du riz, accompagnées d'olives et de quelques anchois. Ils ne faisaient aucune recherche. Leurs préparations les plus complexes étaient le melon au porto, la banane flambée, le concombre à la crème. Il leur fallut plusieurs années pour s'apercevoir qu'il existait une technique, sinon un art, de la cuisine. Et que tout ce qu'ils avaient par-dessus tout aimé manger n'était que produit brut, sans apprêt ni finesse. Ils témoignaient en cela, encore une fois, de l'ambiguïté de leur situation. L'image qu'ils se faisaient d'un festin correspondait trait pour trait au repas qu'ils avaient longtemps exclusivement connu, ceux des restaurants universitaires. À force de manger des beefsteaks minces et coriaces, ils avaient voué au Chateaubriand et au filet un véritable culte. Les viandes en sauce, et même ils se méfièrent longtemps des pot-au-feu, ne les attirait pas. Il gardait un souvenir trop net des bouts de gras nageant entre trois ronds de carottes dans l'intime voisinage d'un petit suisse affaissé et d'une cuillerée de confiture gélatineuse. D'une certaine manière, ils aimaient tout ce qui niait la cuisine et exaltaient l'apparat. Ils aimaient l'abondance et la richesse apparente. Il refusait la lente élaboration qui transforme en mets des produits ingrats et qui implique un univers de sauteuses, de marmites, de hachoirs, de chinois, de fourneaux. Mais la vue d'une charcuterie, parfois, les faisait presque défaillir, parce que tout y est consommable tout de suite. Ils aimaient les pâtés, les macédoines ornées de guirlandes de mayonnaise, les roulés de jambon et les bœufs en gelée. Ils y succombaient trop souvent et le regrettaient, une fois leurs yeux satisfaits, à peine avaient-ils enfoncé leur fourchette dans la gelée rehaussée d'une tranche de tomate et de deux brins de persil. Car ce n'était après tout qu'un œuf dur. Il y avait surtout le cinéma. Et c'était sans doute le seul domaine où leur sensibilité avait tout appris. Ils n'y devaient rien à des modèles. Ils appartenaient, de par leur âge, de par leur formation, à cette première génération pour laquelle le cinéma fut, plus qu'un art, une évidence. Ils l'avaient toujours connu, et non pas comme une forme balbutiante, mais d'emblée, avec ses chefs-d'œuvre, sa mythologie. Il leur semblait parfois qu'ils avaient grandi avec lui et qu'ils le comprenaient mieux que personne avant eux n'avait su le comprendre. Ils étaient cinéphiles. C'était leur passion première. Ils s'y adonnaient chaque soir, ou presque. Ils aimaient les images, pour peu qu'elles soient belles, qu'elles les entraînent, les ravissent, les fascinent. Ils aimaient la conquête de l'espace, du temps, du mouvement. Ils aimaient le tourbillon des rues de New York, la torpeur des tropiques, la violence des saloons. Ils n'étaient ni trop sectaires, comme ces esprits obtus, qui ne jurent que par un seul Einstein, Buñuel ou Antonioni. Ou encore, il faut de tout pour faire un monde, Carnet, Vidor, Aldrich ou Hitchcock. Ni trop éclectiques comme ces individus infantiles qui perdent tout sens critique et crient au génie pour peu qu'un ciel bleu soit bleu ciel, ou que le rouge léger de la robe de Sid Caris tranche sur le rouge sombre du canapé de Robert Taylor. Ils ne manquaient pas de goût. Ils avaient une forte prévention contre le cinéma dit sérieux qui leur faisait trouver plus belles encore les œuvres que ce qualificatif ne suffisait pas à rendre vaines. Mais tout de même, disaient-ils, et ils avaient raison, Marianne Bad, mais quelle merde ! Une sympathie presque exagérée pour les westerns, les thrillers, les comédies américaines et pour ses aventures étonnantes gonflées d'envolées lyriques, d'images somptueuses, de beauté fulgurante et presque inexplicable qu'était, par exemple, il s'en souvenait toujours, Lola, La croisée des destins, Les ensorcelés, écrit sur du vent. Voilà donc ce soir pour la suite de notre roman de Georges Perec, Les choses, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.